Ce soir, nous allons à l'ouverture, ou presque, ça commence demain, du Forum de Paris sur la paix, où sera Kamala Harris d'ailleurs, qui en profitera une fois de plus, qui est en train d'ailleurs de le faire pour se rabibocher avec Emmanuel Macron et avec la France. On va s'interroger sur les buts de ce Forum sur la paix, qui se tient d'ailleurs en même temps que la COP26. Décidément, le monde va mal, mais on se rencontre souvent entre grands chefs d'État. Le bruit du monde est au Cap Vert, un cas concret encore du changement climatique. On va parler sécheresse. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Logeni a trouvé un mariage à Birmingham, un épisode encore de la saga familiale de Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande et des clean coins, de la monnaie propre. C'est une nouvelle monnaie très particulière et ça se passe en Israël, 18h50, le cinéma en VO comme chaque mercredi et le Nanni Moretti qui a vu Alexis de Meyer, 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four. Au comment on ne regarde pas le vrai sujet en se focalisant sur les Polonais et les Bélarusses dans le conflit qui les oppose à la frontière. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Justin Weiss.
Bonsoir Fabienne.
C'est vous qui organisez donc ce Forum de Paris sur la paix qui commence demain. Vous en êtes le fondateur, le directeur général. C'est la 4e édition. 65 chefs d'État et de gouvernement, dont, et on y viendra, j'ai déjà évoqué la vice-présidente Kamala Harris, beaucoup d'experts, des ONG, des think tanks aussi. Alors j'imagine que la date du 11 novembre, par ailleurs, n'a pas été tout à fait choisie au hasard.
Absolument. C'était le centenaire en 2018, voilà, quand on a commencé l'armistice.
Est-ce que le Forum sur la paix, Justin Weiss, au fond, c'est la COP de la paix, puisque tout le monde est là, à peu près les mêmes, sauf qu'il y a quelques têtes qui changent, mais pas beaucoup
c'est,
plus.
C'est la COP de tous les problèmes qui dépassent les frontières et pour lesquels on a besoin de coordination. Alors, il y a tous ces chefs d'État, c'est un peu la séquence impressionnante et qui attire les médias, mais il faut voir que derrière, on a 80 sessions avec des ONG, des fondations, des entreprises, des universités, etc. Et l'idée, c'est que tous ces problèmes-là, la santé et le Covid-19, le numérique dans toutes ses dimensions, le climat, bien sûr, la biodiversité, les problèmes de réfugiés, etc., ne sont pas susceptibles d'être réglés par un seul pays. Et même pas par les gouvernements tout seuls quand ils agissent sans les autres acteurs. Et donc, ce que fait le Forum, c'est de les mettre ensemble et de lancer des initiatives, de présenter des projets pour répondre à ces problèmes-là.
Mais ça existe déjà, tous ces organismes internationaux, le premier d'entre eux étant l'ONU, mais il y en a aussi d'autres dont vous dites d'ailleurs en vous lisant que, au fond, il suffit pas, il faut le compléter. Donc, qu'est-ce qui n'est pas ONU compatible, mais qui est Forum sur la paix compatible?
L'ONU est fondamentale et d'ailleurs, demain, c'est une vidéo de Guterres, d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui ouvrira le Forum. Mais l'ONU...
Comme les fois précédentes d'ailleurs.
Comme les fois, absolument, il était là à chaque édition, soit en présence en 2018-2019, soit virtuellement. Mais en fait, il y a deux obstacles que rencontre l'ONU. Le premier, c'est que elle est parcourue de tensions, évidemment, tensions entre grandes puissances qui rendent impossible de s'entendre sur ce qui compte. Et puis, deuxièmement, elle ne compte que des États. L'ONU, c'est intergouvernemental. Or, sur des sujets comme le Covid ou d'autres, on a besoin des autres. Et c'est comme ça que le Forum peut compléter l'action internationale et aussi donner un dynamique dont on espère parfois qu'elle puisse aboutir à l'ONU éventuellement.
Donc, par exemple, est-ce que déjà, depuis 2018, alors c'est frais, c'est 9, 4 ans, c'est pas beaucoup, ça se met en place ce genre de forum, mais est-ce que, par exemple, déjà, vous avez eu le sentiment d'avoir pu, vous, asseoir sur la table des gens qui ne se seraient pas assis autour de la même table si on était à New York à l'ONU et qui ont apporté quelque chose qui soit tangible aujourd'hui?
Tout à fait. Par exemple, prenez la cybersécurité. En fait, la cybersécurité, ça touche la vie des gens très directement. Souvenez-vous, toutes les attaques sur les hôpitaux en début d'année. Quatre hôpitaux français, plusieurs hôpitaux allemands, avec un mort, notamment en Allemagne. Donc c'est des choses qui sont très concrètes. En 2018, on a lancé cette initiative qui s'appelle l'Appel de Paris sur la cybersécurité et qui rassemble à présent plus de 1200 entreprises, États, groupes de la société civile autour de principes communs. Alors la situation a plutôt tendance à empirer et donc on en rajoute et après-demain, il y aura des nouvelles annonces sur ces normes-là en l'absence de possibilité que l'ONU avance. Parce qu'en fait, l'ONU essaye d'avancer, mais compte tenu des tensions entre États-Unis et Russie, entre États-Unis et Chine, pour l'instant, c'est bloqué. Donc, on avance par le bas, en quelque sorte. Et avec cet appel de Paris, on a des résultats concrets.
Je vous écoute et j'ai l'impression, effectivement, qu'on est là devant un mélange, donc un peu d'ONU. Effectivement, vous le disiez, un petit peu de COP, peut-être un peu de Davos aussi, parce qu'il y a des chefs d'entreprise, il y a beaucoup d'argent qui circule. Et c'est bien normal. Il y a celui de Melinda Gates, par exemple, et ça a vraiment du sens. On sort aussi d'un G20. Donc, ça donne vraiment le sentiment qu'on cherche assez désespérément, finalement, la forme de multilatéralisme qui aura enfin un impact réel. On cherche à détourner les chefs d'État des crispations géopolitiques et idéologiques pour les rassembler sur des thèmes. Donc bon, là on va faire le climat, là chez vous on est sur la paix, à d'autres endroits on est sur l'économie. Ça parle aussi d'un constat d'échec du multilatéralisme au fond quand on multiplie les forums de ce genre, aussi utiles soient-ils.
C'est pas faux, et en même temps on peut avoir une vision un tout petit peu plus positive, je pense. À partir du moment où l'ONU est bloquée sur un certain nombre de sujets, il est non seulement légitime, je pense, mais aussi nécessaire qu'il y ait d'autres formes de coordination, de conciliation des intérêts. Parfois, ce sont des acteurs privés entre eux, parfois, ce sont des collectivités locales. Regardez ce que font, par exemple, les villes autour du C40 sur le climat, sur le Covid, etc. Elles seront assez présentes, d'ailleurs, au Forum de Paris sur la paix. Et donc, je crois qu'il y a en fait plusieurs formes de coordination internationale. Il n'y a pas que le multilatéralisme pur de l'ONU, vous savez, à la tribune où on a les quelques grandes puissances, etc. En fait, la société internationale est beaucoup plus riche que ça, et c'est ça qui justifie l'existence de ces forums. C'est leur résultat au bout du compte.
Ça veut dire qu'on évite au fond les sujets qui fâchent. Ça veut dire qu'effectivement on ne va pas parler d'armes, on ne parle pas de désarmement. On est dans une période de non-guerre, c'est joliment dit d'ailleurs dans l'une des discussions qu'il y aura au cours de ces deux jours. Mais il y a quand même plein d'éléphants dans la pièce. Et vous l'avez cité, l'éléphant dans la pièce, c'est la Chine et les États-Unis avec Taïwan au milieu. L'éléphant dans la pièce, c'est ce qui se passe aujourd'hui par exemple entre la Pologne et la Biélorussie et aussi la Lituanie autour des migrants. Et tout ça au forum, évidemment, ça n'existe pas.
Et alors, exactement. Mais alors là, il faut bien voir pourquoi. L'ONU est la première instance pour régler ces tensions, ces conflits, etc. Le problème, c'est qu'on l'a bien vu au cours d'ailleurs de la dernière semaine, même à la COP26, c'est que ces tensions-là, les tensions géopolitiques, tendent à rendre impossible de régler les problèmes qui nous rassemblent. Autrement dit, ce qui nous divise tend à rendre impossible là où on a des intérêts pourtant communs. Je veux dire, Pékin, comme Washington, comme Moscou, comme Paris, ont intérêt à résoudre la crise du climat. Et pourtant, ils n'y arrivent pas parce que, ou alors, c'est même pire, c'est parfois, le climat est instrumentalisé pour ces tensions géopolitiques.
Mais donc, on peut parler climat, effectivement, on peut parler, je vais le reformuler, on peut parler entre la Chine et les États-Unis quand on parle climat, sachant qu'on a du mal à parler d'autre chose. De quoi on parle chez vous, peut-être entre la Chine et les États-Unis aussi, d'ailleurs, dont on ne parlerait pas sur une tribune de l'ONU, ou qui n'engagerait pas ce genre de discussions qui sont, j'allais dire, polluantes et qui sont même et qui rendent le dialogue impossible.
Dès le début, le forum est pensé comme un endroit où, justement, une sorte de terrain neutre où le nord et le sud se rencontrent, la dimension sud est importante, et où, en quelque sorte, l'est et l'ouest, si on reprend ces vieilles catégories, mais en les adaptant, c'est plutôt la Chine maintenant, se rencontrent. Et pour donner cet exemple concret, il y a l'espace. L'espace nous appartient à tous les humains, et on a des vrais problèmes sur l'espace, et en particulier le fait que l'orbite basse est de plus en plus encombrée, il y a de plus en plus de débris, il y a de plus en plus de satellites, et on n'arrive pas à s'entendre. Et pour l'instant, c'est trop lent à l'ONU. Et il y a péril en la demeure, puisque on pourrait bientôt avoir, disons, des accidents de satellites et être privé de ceci. Sans parler des pays du Sud, qui, eux, n'ont pas encore de capacité spatiale, mais voudraient pouvoir y accéder. Et donc, ce qu'on fait, et ce qu'on va lancer le 12 novembre, après-demain, c'est une autre initiative qui s'appelle Net Zero Space. Vous savez, Net Zero, c'est ce qu'on utilise pour le climat, c'est-à-dire zéro émission. C'est-à-dire, il faut d'abord ralentir, et ensuite, il faut arriver à ne plus produire de CO2. Nous, c'est l'idée, en rassemblant tous les acteurs, les industriels, y compris chinois, les agences spatiales et les autres, c'est de dire, à partir de 2030, on ne produit plus de débris, parce que sinon, on a déjà pollué la Terre, on va aussi polluer l'espace, et on ne pourra plus avoir de communication, d'imagerie satellitaire, de système d'alerte, etc. Donc ça, c'est quelque chose de concret. On a par exemple le patron de l'agence spatiale chinoise qui sera là, on a les Nigérians, les Indiens et d'autres, et donc on essaye de les rassembler, on les rassemble, et on va lancer ça le 12 novembre, avec d'ailleurs un soutien parlementaire, parce que les de plus en plus de parlements s'inquiètent de cette question-là, qui sera exprimée à partir de vendredi.
Jusqu'à quel point vous êtes contraignant ?
Alors, bien sûr, c'est toute la question, parce qu'on voit bien qu'il y a une sorte d'arbitrage, c'est-à-dire plus vous avez un traité contraignant, plus il est difficile à obtenir. Et on le voit bien à l'ONU, il est plus question en ce moment, dans les conditions actuelles, d'avoir un traité sur la cybersécurité contraignant, ou un traité contraignant sur l'espace, ou des choses, ce n'est plus possible. Et donc, du coup, on se tourne vers d'autres formes d'action qui sont moins contraignantes. Alors on dit « Ah, c'est du blabla, ce n'est que des mots ». En réalité, non, parce que ce droit mou, comme on dit, ce soft law qu'on produit...
Le droit mou, c'est le droit mou.
Le droit mou, le soft law, exactement. Okay. À partir du moment où il rassemble suffisamment d'acteurs, à partir du moment où il est adopté par suffisamment d'acteurs, même si il n'a pas cette force contraignante, il envoie des signaux, il contraint les... Regardez, très concrètement. Regardez, ceux qui construisent et qui lancent des satellites ne peuvent plus tout à fait... Alors, respectent, disons, leur législation nationale, mais à partir du moment où on a des instruments comme celui qu'on va lancer, évidemment, sentent bien qu'à terme, ils ne pourront pas toujours continuer à faire des satellites qui risquent d'exploser, de créer des débris et de pourrir, en quelque sorte, l'orbite basse.
Quand je vois les différents thèmes qui seront abordés, les différentes tables rondes, je ne sais pas si c'est une table ronde qui est le mot approprié, vous allez parler d'adaptation au changement climatique, de financement de la transition, de comment poursuivre les pollueurs, de biodiversité aussi. On est en pleine COP26 en ce moment. Donc qu'est-ce qui se passe chez vous qui ne se passe pas à la COP26? En quoi les deux avancent main dans la main et pourront faire avancer les choses un peu plus vite?
Alors, on est complémentaire à la COP26 parce que, alors d'abord, on laisse évidemment la préséance à ce qui doit être central, qui est en effet le système de la CNUC, c'est-à-dire des COP chaque année. On agit sur d'autres aspects, en particulier sur une vision, disons, de plus long terme, d'anticipation à plus long terme, sur les risques climatiques. La COP se concentre énormément sur la question de la réduction des émissions, et c'est fondamental, c'est le béaba. Cela dit, à terme, la vraie question va être celle du réchauffement, en réalité. Les deux sont liés, évidemment, mais le réchauffement va arriver quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe sur nos efforts de réduction des émissions. Et donc, il faut commencer à réfléchir à cette question-là, en plus de la réduction des émissions qui arrivera à un moment ou à un autre, on l'espère en tout cas, et comment est-ce qu'on traite de ces questions-là.
Juste un Weisslin des thèmes, là. Les thèmes forts cette année, c'est la reprise post-Covid et c'est même la fracture que tout cela a créé au sens large. D'ailleurs, le Covid était déjà beaucoup là au forum de l'an dernier, mais on en était finalement encore à un constat, on était encore vraiment en plein dedans. Non pas qu'on en soit sorti aujourd'hui, vous allez parler distribution, vous allez parler production, est-ce que là précisément, c'est pas là-dessus que notre manque de coopération, que notre incapacité à coopérer, et y compris en dehors d'instances comme l'ONU, a été criant. Sur le vaccin, par exemple, outil d'influence remarquable et incroyable, l'image de la fracture mondiale est absolument terrible. On a tous été chercher nos doses de vaccin et après nous, le déluge.
Oui, en même temps, j'ai peut-être trop tendance à voir le verre à moitié plein. On voit bien qu'il y a eu des inégalités fondamentales, mais les choses se mettent en place peu à peu, justement parce qu'il y a du leadership, c'est-à-dire certains sont prêts à rassembler d'autres, à rassembler par exemple, comme on a fait en cours d'année, on a donné une tribune à cet assemblage de ceux qui s'occupent du commerce, donc l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, le FMI et la Banque mondiale pour les sous, pour avoir une plateforme justement pour accélérer cette distribution des vaccins. De même, au forum, dans quelques jours, on a plusieurs panels qui doivent lancer des choses sur la question de la production dans les pays africains.
Justement, est-ce que vous êtes un accélérateur de ça? Parce qu'on sait bien que la clé, c'est la production locale. On va être incapable de produire des vaccins à nous tout seuls, si je puis dire, pays occidentaux, pour l'ensemble du monde. La clé est dans la production mondiale et donc la production locale dans certains pays et continents. Est-ce que vous avez un poids réellement pour arriver à convaincre de ça? Est-ce que vraiment il peut sortir quelque chose de ce forum-là sur ce sujet?
Oui, d'une part, on fait coopérer et tout simplement, en fait, se rencontrer des gens, alors des fondations, des laboratoires, des organisations internationales, etc., qui ne se rencontrent pas nécessairement ailleurs. Et ensuite, on est une plateforme de lancement des initiatives. Par exemple, autour du forum, 4 ou 5 des partenaires du forum parmi les fondations se liguent pour proposer un fonds pour aider, pour accélérer la distribution et surtout la production de vaccins. Et donc, on permet en effet de catalyser, de se rassembler. Il faut, dans ce système international, qu'il y ait des endroits où les gens se retrouvent naturellement et puissent lancer des choses avec un peu d'attention médiatique. On est aussi un endroit de mobilisation de l'opinion publique, justement, et ne serait-ce que en parler, pour parler ce problème d'espace qui nous concerne en fait tous assez directement. Parler du Covid ou du réchauffement climatique, c'est important.
Alors, Kamala Harris est l'invitée d'honneur, on l'a dit, la vice-présidente américaine, qu'on a finalement assez peu vue d'ailleurs depuis un an maintenant, qu'elle est un peu moins d'un an, qu'elle est en fonction. Est-ce que c'est une opération rabibochage, une de plus avec Emmanuel Macron? Elle y est d'ailleurs au moment où on se parle. Donc est-ce que ça veut dire que le forum sert à ça, ou le forum est le prétexte à ça?
Non, en fait, on l'a invitée dès le printemps dernier, donc bien avant la crise des sous-marins qui date du
elle avait déjà dit oui à ce moment-là ou pas?
Elle était tout à fait, enfin c'est elle qu'on souhaitait avoir, elle n'avait pas dit un oui formel. Et d'ailleurs, évidemment, le 15 septembre, on s'est dit bon bah c'est raté. Et puis après, on a vu qu'on était dans une dynamique, en effet, de rapprochement. Non, en fait, je pense qu'elle vient d'abord, et ses communiqués de presse l'ont bien marqué, elle vient d'abord, c'est d'abord le rabibochage avec le multilatéralisme, en fait, des États-Unis. C'est-à-dire le contact avec les autres acteurs de la société internationale, les autres États, mais etc. Je pense que c'est ça que son discours de demain va dire. Et puis, Secondairement, il y a aussi ce rapprochement avec la France qui continue. Je pense que la blessure a été profonde, si on peut dire, et que après le coup de téléphone Biden-Macron, la rencontre Biden-Macron à Rome, c'est en effet une étape de plus pour marquer l'importance de cette proximité franco-américaine et essayer d'avoir une vision commune de ce que cette alliance signifie.
Le ravibossage avec le multilatéralisme, comme vous dites, parce que on a un peu le sentiment, je peux pas m'empêcher de vous remettre un tout petit peu votre casquette de spécialiste américain pour ça, on a un peu le sentiment qu'au fond, dans cette année-là, là-dessus, c'est presque raté pour Joe Biden, en fait. Et probablement, d'ailleurs, à cause de la crise des sous-marins, mais pas seulement, que tout l'espoir qu'il pouvait y avoir de voir revenir les Américains dans ce multilatéralisme-là, il ne l'a pas du tout incarné cette année-là.
Oui, je trouve que c'est un peu sévère, parce que, souvenons-nous quand même, retour dans les accords de Paris, large déblocage à l'Organisation mondiale du commerce, il y a quand même eu des gestes tangibles, et puis tout un réengagement avec ces instances multilatérales, le soutien aux opérations sur les vaccins et d'autres choses, qui font qu'avec un peu de recul, on voit bien que la différence est énorme, en fait, entre les deux. Simplement, en effet, les États-Unis n'ont plus la puissance qu'ils avaient avant par rapport aux autres États, et donc ne peuvent plus être, entre guillemets, aussi, généreux dans leur fourniture de biens publics mondiaux qu'auparavant, que lorsqu'ils dominaient largement le monde dans les années 90 ou 2000.
Allez, en tout cas, on suivra ce qu'elle a à dire, Kamala Harris, à ce forum qui commence demain, qui se poursuit le vendredi 12. Justin Weiss, merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Un jour dans le monde, la suite, c'est le bruit du monde au Cap-Vert, victime d'une sécheresse sans précédent et qui poursuit la série d'exemples concrets du changement climatique que nous vous proposons pendant toute la durée de la COP26 et puis pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Legénie.
Nous irons en Nouvelle-Zélande où la première ministre a été interrompue par sa fille de 3 ans en plein direct. Une communication pas très maîtrisée mais très rafraîchissante.
Le cinéma en VO, Alexis Demeyer, bonsoir.
Bonsoir. Direction Rome avec le film choral Trépiani, signé Nanni Moretti. Le réalisateur sexagénaire, vous l'entendrez, aime toujours autant parler de cinéma.
Et vous l'avez moyen aimé, on verra ça dans un instant. Le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous. Oui, le Biélorusse Loukachenko instrumentalise les migrants contre l'Europe, mais il ne pourrait pas les instrumentaliser si ce dossier des migrants était réglé, CQFD.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour du monde n'est pas fini, il passe par l'île de Wight, au large de l'Angleterre. Wet Leg, c'est le duo. Wet Dream, c'est le titre. Bref, c'est tout mouillé. Allez, à tout de suite.
Thank you.
Le bruit du monde, ce soir, est au Cap-Vert et poursuit donc son tour du monde des exemples concrets des lieux touchés par le dérèglement climatique. Ici, nous sommes à 650 km des côtes ouest africaines. 600 000 personnes vivent au Cap-Vert et vivent l'une des pires sécheresses de leur histoire. Le Premier ministre du pays a appelé à la tribune de la COP26 à des actions et des engagements aussi de la part des États les plus développés. Les plus touchés, évidemment, ce sont les agriculteurs et le reste, c'est William Delesseux qui raconte.
Des cannes à sucre, des rosiers, des bananiers sont cultivés sur cette colline à São Domingo, à une dizaine de kilomètres de Praia. Cela fait 24 ans qu'Aristidish Carvalho entretient les plantes et les arbres, récolte leurs fruits, une exploitation que lui a légué son grand-père.
Cette canne à sucre que vous voyez là manque d'eau. Nous avons tout un système d'arrosage. Sans pluie, il n'y a pas assez d'eau et le gouvernement ne parvient pas à nous aider.
Ça, c'est un papayer. Vous attendez, mais il n'y a toujours rien.
Oui, on essaie de le récupérer, mais on n'a pas trop d'espoir.
C'est complètement sec. S'il ne pleut pas, d'où peut venir l'eau ici ? D'où vient l'eau avec laquelle vous arrosez ?
Sans pluie, on est obligé d'acheter des bidons d'eau. Des bidons de 50 litres ou même de 500 litres dans le pire des cas. Ça coûte environ 500 escudos, l'équivalent de 5 euros.
Est-ce que sur la durée, c'est possible de maintenir la production comme ça ou pas ?
Non, c'est impossible de continuer comme ça. Nous n'avons pas assez d'argent, l'eau est beaucoup trop chère. Et le rendement trop faible. C'est pas possible.
L'eau est pourtant proposée à un tarif préférentiel. Aristidish Carvalho attend désormais la prochaine pluie, saison oblige. Il sait qu'elle n'arrivera pas avant l'année suivante.
S'il pleut, on pourra investir et augmenter la production. On pourra ne pas arroser. S'il pleut pas, on va devoir attendre. Patience. Mais tout cela est d'une grande tristesse.
Alors on se trouve maintenant dans l'exploitation agricole de Manuel Amado. C'est une exploitation qui est là depuis les années 60. On a là des vaches qui vivent grâce à du fourrage. Il y a énormément de fourrage qui est stocké depuis des années. On va demander à Manuel Amado pourquoi. On vient de le rencontrer.
Bonne tarde.
Ce que vous voyez, c'est effectivement un stock de fourrage que je possède depuis 2020. Au Cap-Vert, on n'est jamais sûr d'avoir de l'eau, et donc du foin tous les ans. La preuve que j'ai eu raison, on en a bien besoin en ce moment pour les animaux. On peut tenir encore 2 ou 3 ans comme ça.
Manuel Amado cultive également des bananes, 30 tonnes par mois il y a 3 ans. Désormais, il ne faut pas espérer plus de 5 tonnes mensuelles. Lui n'achète pas d'eau.
Non, de l'eau ? Il y en a ici dans le sol, suffisamment pour les bananiers. Le problème, c'est sa qualité, sa trop haute teneur en sel. Je suis là depuis 20 ans et le changement se voit partout au Cap-Vert. Les terrains semi-arides deviennent arides, les terrains humides deviennent semi-humides. On doit tous avoir conscience de ce bouleversement car la dégradation de l'environnement est évidente. Il est temps de trouver de nouvelles solutions.
Le nouveau président élu, José María Neves, a fait de la sécheresse une priorité nationale. Le gouvernement qui a mobilisé près d'1,5 million d'euros cette année afin de compenser les mauvaises récoltes. Une aide pour encourager certains à se reconvertir vers d'autres métiers comme des emplois municipaux. La preuve que la sécheresse a fait renoncer des agriculteurs à exploiter leurs terres.
William Delesseux pour le reportage au Cap-Vert, merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est toute l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logénie. Nous sommes dans les rues de Birmingham, en Angleterre. Sébastien, Birmingham, où l'on a appris que le prix Nobel de la paix Malala s'est marié hier.
Malala Yousafzai, la plus jeune des prix Nobel de la paix, c'était en 2014. Cette militante du droit des filles à l'éducation avait été victime, on s'en souvient, d'un attentat des talibans pakistanais en 2012. Elle avait alors 15 ans. Les djihadistes avaient fait irruption dans le car scolaire qui la ramenait chez elle et lui avaient tiré une balle dans le visage, un geste qui avait soulevé une émotion considérable dans le monde entier. Malala avait ensuite été soignée à Birmingham et c'est là donc où elle vit depuis près de 10 ans. Malala est aujourd'hui âgée de 24 ans et hier soir, donc, c'est dans un tweet qu'elle a révélé qu'elle venait de se marier le matin même. Un jour précieux dans ma vie, dit-elle. Son mari s'appelle Asser Malik, actuellement directeur général au sein du Pakistan Cricket Board. Un mariage salué par des milliers d'internautes car Malala, au-delà de cette nouvelle étape de vie, est aujourd'hui une véritable icône en Occident parmi les 100 personnes les plus influentes au monde d'après le Time.
They thought that the bullet would silence us.
On l'entend ici lors de son intervention à la tribune de l'ONU le 12 juillet 2013, 9 mois seulement après avoir pris une balle dans la tête. Les extrémistes ont peur des livres et des stylos, avait-elle lancé. Le pouvoir de l'éducation les effraie. Malala est aujourd'hui diplômée de la prestigieuse université d'Oxford. Elle vit au Royaume-Uni avec toute sa famille et donc désormais avec son mari et continue sans relâche sa lutte contre l'obscurantisme. Sa dernière intervention à l'ONU, c'était il y a 2 mois pour défendre le droit de ses sœurs afghanes à avoir aussi une éducation. Les Afghanes, jusqu'à ce jour, interdites, on le sait, de retourner à l'université.
Une autre femme fait parler d'elle aujourd'hui, c'est la première ministre néo-zélandaise.
Jacinda Ardern, qui s'était fait connaître en 2018 pour être la première femme d'État au monde à venir siéger aux Nations Unies avec son bébé de 3 mois dans les bras afin de pouvoir l'allaiter. Son mari, à l'époque, lui avait décidé de devenir père au foyer. Bref, une première ministre moderne qui avait fait de sa vie privée un slogan politique. On peut être mère et femme politique en même temps. Eh bien, nouvel épisode dans la saga familiale hier soir. La première ministre néo-zélandaise était en direct sur Facebook, un live pour annoncer au pays un allègement des restrictions dans la lutte contre le Covid, lorsque soudain, une petite voix se fait entendre.
Safe, but you'll see that greater certainty for business. You're meant to be in bed, darling.
Voilà, c'est la petite fille de Jacinda Ardern que l'on entend au loin, Névé, 3 ans, qui n'arrive pas à s'endormir. Tu es censée être au lit, chérie, lance la première ministre avec une décontraction stupéfiante. Non, répond la petite Névé. C'est l'heure de dormir, chérie, retourne te coucher. Je viendrai te voir dans une seconde, je viendrai te voir dans une minute. Ok, bon, désolé tout le monde, reprend la chef du gouvernement avec un petit sourire en coin, concluant avec humour. Eh bien, ce couchage, c'était un échec. A bedtime fail et de reprendre comme si de rien n'était son Facebook Live. Voilà, on est loin, très loin des allocutions présidentielles à la française.
Mais pas moins préparé en termes de com peut-être.
Exactement.
Allez, on termine en Israël où ramasser les ordures peut vous faire gagner de l'argent.
De l'argent virtuel, c'est l'idée très originale d'une start-up de Haïfa au nord de l'État hébreu, CleanCoin. Écoutons son fondateur, il est très clair. Nous avons développé, dit-il, une plateforme qui permet à toute personne sortant dans la nature de prendre des photos sur son portable des endroits pollués, bouteilles de plastique, papier gras, carton. Ensuite, d'autres personnes pourront voir tous ces endroits sur leur smartphone, localisés sur la carte. Ils pourront s'y rendre, les nettoyer et être récompensés pour cela. La récompense, c'est une dizaine de clean coins, pièces propres en bon français, une nouvelle monnaie virtuelle lancée par la start-up pour l'occasion et qui pourra être dépensée auprès d'enseignes partenaires. Un t-shirt neuf, par exemple, dans une boutique de surf de Tel Aviv. Les clean coins qui tiennent plus du bon d'échange pour bonne conduite écologique que de la crypto-monnaie. Pas de spéculation dans tout ça, juste un petit côté chasse au trésor qui pourrait bien devenir à terme une opération de nettoyage vraiment efficace, qui sait.
Allez savoir. Merci beaucoup Sébastien Legenie. À demain. Je vous laisse partir avec Mélodie Gardot qui a besoin de réconfort apparemment. Who will comfort me sur France Inter.
My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. Day, love, day, day. your family drowned in pride and poverty. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My home is a wreckage, a family drowned in plight and poverty. Yeah, oh Lord, who will comfort me? Oh Lord, who will comfort me? Oh Lord, who will comfort me? Comfort me.
Sur France Inter. Et ben Nani Moretti, tiens, pour le réconfort, pourquoi pas. C'est mercredi et c'est le cinéma en VO.
France Inter. Un jour dans le monde.
Ma voi dovete aiutarmi.
L'unica cosa che potrebbe aiutarti sarebbe dimostrare un po' di rimorso per quello che hai fatto.
La voix de Nani Moretti et son film Trépiani, en salle depuis ce matin. Le cinéaste italien est Vittorio, un magistrat ulcéré par les déboires judiciaires de son fils Andrea. C'est le 13e film, Alexis de Meyer, de Moretti. Et c'est le premier dont il ne signe pas le scénario original, d'ailleurs, puisque c'est un film tiré du roman de l'israélien Ercole Nevo, c'est ça?
Oui.
Et Trépiani, ça veut dire trois étages en italien.
Oui, ça tombe bien, parce que c'est un peu panique à tous les étages dans cet immeuble d'un quartier bourgeois de Rome. Il y a donc ce juge dont le fils est accusé d'homicide. Il y a aussi cette jeune mère de famille qui croule sous la charge mentale, ou encore ce retraité atteint d'Alzheimer, injustement soupçonné d'attouchement sur mineur. On connaissait le Moretti intime, le Moretti engagé. On découvre ici le Moretti quasi mystique, tant les questions de la culpabilité et du pardon hantent le dernier film du réalisateur de Habemus Papam. Et quand le maestro de 68 ans aborde le concept de zone grise du consentement, c'est pour en déplorer les supposées dérives.
Mi rivolgo a un pubblico libero. Senza pregiudizi.
Je m'adresse à un public libre et sans préjugés. Mais par exemple, le public américain a perdu sa lucidité. Il considère la scène de sexe de mon film comme un viol. Et selon moi, c'est une erreur. J'ai vu récemment un documentaire américain dans lequel Harvey Weinstein est mis sur le même plan que Woody Allen. Alors que le premier a été reconnu coupable de multiples viols, tandis que le second n'est même pas poursuivi en justice. Les juges refusent d'organiser un procès. Dans Trépiani, je cherche simplement à montrer des personnages dans leur humanité et leur fragilité.
Et la fragilité.
Ouais, Nani Moretti, palmé d'or il y a pile 20 ans pour La Chambre du Fils, est reparti bredouille du Festival de Cannes en juillet dernier.
Mais alors malgré tout, Alexis, sa place dans le cinéma italien reste évidemment prépondérante.
Ouais, mis à part Sorrentino, peut-être, Moretti est le seul cinéaste italien à continuer d'exister sur la scène internationale. Et cet amoureux du 7e art n'est pas forcément très optimiste quant à l'avenir de la production italienne.
Nuove generazioni si ha di...
En Italie, il y a toute une nouvelle génération de réalisateurs, d'acteurs, de scénaristes et même de producteurs. Mais l'aspect négatif vient des plateformes qui remplissent d'argent les poches des producteurs en leur répétant ce mantra « Votre film sera vu dans 190 pays ». Et le problème, c'est que les producteurs ne travaillent plus avec les auteurs, car ce sont les plateformes qui discutent directement avec les réalisateurs et les scénaristes, leur donnant l'impression d'être promus alors qu'au contraire, ils sont amenés à concevoir des produits standardisés sans personnalité. Moi aussi, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent en vendant Trepiani à une plateforme. Mais non, j'ai voulu attendre la réouverture des salles. En tant que spectateur, j'aime voir les films au cinéma. C'est d'ailleurs l'une des choses qui m'a le plus manqué pendant la pandémie.
Nanni Moretti qui fête cette semaine les 30 ans du Nuovo Sacher, son mythique cinéma du quartier romain de Trastevere. Lundi, il a accueilli l'actrice norvégienne Renata Rensve et toute l'équipe du très joli Julie en 12 chapitres pour une avant-première aux 12 heures de Dolce Vita.
Allez, le Nanni Moretti qui sort en salle ce mercredi. Alexis Demeyer, merci beaucoup.
Prego.
Fabienne Sintès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, la crise des migrants dont on parlait dans le journal tout à l'heure, on en reparlera évidemment tout à l'heure à 19h aussi, continue aux frontières orientales de l'Europe, en Pologne et aussi en Lituanie, deux pays confrontés à un afflux de migrants du Proche-Orient, autant de réfugiés envoyés, instrumentalisés par le régime dictatorial de la Biélorussie. Mais pour vous, il faut pas se tromper de sujet, se contenter de dénoncer le méchant dictateur biélorusse est un peu faible et c'est votre monde d'après.
Oui, bien entendu hein, que le potentat de Minsk, Alexandre Loukachenko, n'est pas recommandable. Bien entendu qu'il agit avec un cynisme absolu et qu'il utilise sans vergogne tous les migrants comme des instruments presque de la chair à canon dans son règlement de compte avec l'Union Européenne. Les faits sont avérés, Loukachenko prépare son affaire depuis des mois, furieux des sanctions européennes qui ont suivi la répression en Biélorussie, il a décidé de se venger. Depuis le début de l'été, il fait donc venir par charter entier des Syriens ou des Afghans réfugiés au Liban, au Kurdistan, en Turquie. Ça se compte désormais par dizaines de vols par semaine. Et ensuite, il envoie ses migrants par convoi en car vers les frontières polonaises ou lituaniennes, au casse-pipe. Ces hommes, ces femmes, ces enfants se retrouvent prisonniers d'un no man's land entre soldats russes et polonais. Donc oui, il agit avec cynisme, de façon méthodique, planifiée, en appuyant sur le talon d'Achille de l'Union Européenne, un calcul politique organisé avec la bienveillance de son sponsor, le russe Vladimir Poutine. Mais inutile de pousser des cris d'orfraie. On ne découvre pas aujourd'hui que Loukachenko est un bad guy. Donc résumer cette crise, oui, à la seule dénonciation des pratiques d'une dictature est une grille de lecture simpliste. Elle a pour seul objectif de désigner un ennemi, c'est tout.
Et alors, selon vous, la réaction du gouvernement polonais, est-ce qu'elle est simpliste aussi?
Oui, elle est simpliste aussi parce qu'elle est exclusivement sécuritaire. Elle peut se comprendre, la Pologne est inquiète face à l'attitude de son voisin biélorusse et de son parrain moscovite, mais ça n'en est pas moins une grille de lecture réductrice. Ça consiste en quoi? Ça consiste à militariser la frontière en déployant plus de 15 000 hommes, en dressant des fils de fer barbelés, en interdisant aux journalistes de se rendre dans la zone, au motif que le sujet se résumerait à une double menace. Menace militaire de l'armée de Loukachenko et menace humaine des hordes de migrants assimilés à des barbares. Lecture sécuritaire, réponse sécuritaire, la même en gros que celle du Hongrois Orban, la même en fait que celle de l'OTAN. Mais ne nous y trompons pas, là aussi c'est du cynisme politique, cette grille de lecture permet d'alimenter le réflexe nationaliste, le réflexe patriotique en Pologne, dans une réaction d'autodéfense, un mécanisme dont les régimes populistes sont friands. Et surtout, cette logique sécuritaire ne réglera rien de façon pérenne, elle ne donne que des solutions à court terme, c'est-à-dire des frontières fermées, barricadées pour quelques semaines ou pour quelques mois.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que le vrai sujet, c'est le non-règlement du dossier des migrants.
Mais évidemment, en fait, c'est simple, il n'y aurait pas d'instrumentalisation politique possible, ni par la Biélorussie, ni par la Pologne, s'il n'y avait rien à instrumentaliser. Quand on se focalise soit sur la dénonciation du cynisme biélorusse, soit sur la dimension sécuritaire de la crise, on en oublie le fond du problème, le dossier des migrants. D'abord, soit dit en passant, on en oublie presque que des vies sont en jeu, hein, celles de milliers de personnes qui sont en train de se retrouver au milieu de nulle part, entre deux pays, au moment où l'hiver arrive, il fera rapidement moins 10 ou moins 20 dans les semaines qui viennent dans cette zone. Mais bon, ça c'est pas nouveau, il y a en fait belle lurette que l'Europe a mis un mouchoir sur ses considérations d'humanité, il n'est qu'à songer au cimetière qui est devenu la Méditerranée. Et surtout, il y a l'arrière-plan, l'enjeu politique. Depuis la grande crise migratoire de 2015, l'Union européenne fait l'autruche sur la question des migrants en la sous-traitant, on le sait, à ses riverains, la Turquie, le Maroc, le Liban, qui se retrouvent avec des millions de réfugiés sur les bras. Les Européens ne sont toujours pas parvenus à réformer leur politique d'asile, à mettre en place un mécanisme collectif d'accueil, de régulation des migrants. C'est le sujet non traité par excellence depuis des mois. Et la France, en prenant la présidence de l'Union européenne au 1er janvier prochain, va donc le trouver sur le dessus de la pile.
Tant que ce sujet n'aura pas été traité, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Il y aura toujours des Erdogan turcs ou des Loukachenko biélorusses pour les instrumentaliser. C'est le prix de la sous-traitance.
Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Dans un instant, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly et puis le téléphone sonne. Ne changez rien, on reste ensemble et à tout de suite.